Här får det vara så du hör.
Minut. Vous rappelez les meilleures façons de nous écouter, BLVD.fm via notre web radio et également notre application BLVD 101 sur App Store et Google Play Store. 418-971-1021 pour réagir avec nous. Vous êtes énormément à le faire depuis le début de l'émission, comme toujours. Pascal, avant de parler avec Rémi Villemur de ces tricheurs au cégep. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Il y a quelques minutes, il y a une nouvelle qui est sortie concernant le Parti québécois parce que là, on s'est mis en mode prudence, règle de prudence. On craint que la police canadienne nous espionne les élus qui préparent un éventuel référendum sur l'indépendance du Québec.
Hey, mais là, on parle à Pascal Paradis, nous, dans 14 minutes.
C'est ce que je me disais. On va avoir des questions
est-ce
à lui poser.
Est-ce qu'on est écouté par la GRC?
Parce que son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit qu'il y a une constante au Parti québécois, c'est que le chef et les élus influencent. Sont espionnés.
Pascal, il y a des caméras. Est-ce que la GRC contrôle nos caméras?
Écoute, Jeff, moi, j'aurais pas la réponse à ta question aujourd'hui, okay. Si c'est sûr. Par contre, ils ne trouveront pas grand-chose d'intéressant à part quelqu'un qui a pleuré parce que la nouvelle
Jean Tavares serait pas de sens. Mais là, pourquoi on suivrait le PQ,
là? En raison des nouvelles technologies, on dit que c'est encore plus facile d'exercer une surveillance puis que là, le référendum, ce serait quelque chose qui serait intéressant pour les services de renseignement canadiens et que le PQ serait espionné en ce moment. On parle de téléphone, on parle de diverses conversations. C'est particulier. Par le passé, les gouvernements péquistes qui préparaient des référendums, on dit être espionnés. C'est le cas de l'ex-ministre Claude Morin du gouvernement Lévesque qui agissait comme informateur auprès de la Gendarmerie royale du Canada qui a marqué cette époque-là. Donc, on en reparle aujourd'hui puis on craint ça.
Excellent. Pascal, je t'arrête tout de suite parce que notre chroniqueur, Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8 à 10. Il me dit hey, je veux commenter ça, moi, cette nouvelle-là sur l'espionnage. Rémi, est-ce que je dois prendre des particularités pour. Est-ce que je dois prendre mes précautions? Est-ce que je dois faire quelque chose de spécial si j'ai Pascal Paradis en entrevue dans à peu près une quinzaine de minutes?
Oui, mais ça te regarde toi. C'est toi qui a un profil très particulier puis qui attire tous les soupçons de la GRC. Mais moi, vous savez, il y a un truc que je trouve un peu dommage, même si c'est correct, hein, j'en veux pas à personne, mais à chaque fois que ça sort des nouvelles comme ça, on trouve ça drôle, puis on s'amuse un peu, mais la vérité, c'est que c'est fondé historiquement. C'est pas pour rien que Paul Saint-Pierre Plamondon fait cette sortie-là. Par ailleurs, ça ne l'aide pas tout à fait de faire ce genre de sortie-là parce qu'on commence de plus en plus, et je pense à tort, à le peinturer dans le coin en disant « bon, il est un peu complotiste, un peu paranoïaque, un peu soupe au lait. » Il y a beaucoup d'étiquettes depuis quelques années qui lui collent à la tête. Et celle-là, si on doit la mettre dans la catégorie paranoïaque, elle est justifiée. En 1970, quand il y a eu la crise d'octobre, le premier ministre du Québec, c'était Robert Bourassa. Et René Lévesque était chef du Parti québécois. Et Jacques Parizeau était au Parti québécois également. Et quand il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte, René Lévesque a fait en sorte qu'on se réunisse au Parti québécois, qu'on pense à cette question-là. Le Parti québécois subissait de plus en plus de soupçons parce que beaucoup des militants du Parti québécois étaient associés au FLQ. Donc là, pour le Parti québécois, c'était une gestion de crise. Il fallait exprimer publiquement des vœux de on était désolé de ce qui arrivait à Pierre Laporte, mais en même temps, on ne voulait pas prendre non plus une part de la responsabilité. Et je vous raconte ça parce que Jacques Parizeau était rentré dans une pièce à un moment donné où il y avait une réunion entre des péquistes et il avait dit à tout le monde de se taire. Il avait mis son doigt comme ça sur sa bouche. Et là, on avait arrêté. Et là, il avait dit, là, on dit plus un mot sans qu'on ait bogué la pièce. Hein. Bogué la pièce, ça veut dire sans qu'on ait passé. Jacques Parizeau, là, pas un complotiste... Non, Jacques Parizeau, quand même un homme éduqué.
Un homme qui allait devenir premier ministre du Québec, là, rappelons-le.
Et on a su par la suite qu'il avait raison, parce qu'il y a eu la commission Keble qui a démontré qu'il y avait des policiers de la GRC, et c'est un commissaire, là, dans une enquête. Je veux juste le préciser, là, c'est pas une enquête d'un journal péquiste avec des moyens. Non, une enquête, commission d'enquête, commission Keble. Ça a été prouvé qu'il y avait des policiers de la GRC qui, après la crise d'octobre, étaient mandaté et payé pour aller installer des bombes pour que ces bombes-là qui sautaient passent pour des bombes installées par le FLQ. Parce que la crise d'octobre avait été très utile pour le camp fédéraliste. Ça avait permis de dépeindre les souverainistes comme des gens violents. Mais quand la crise d'octobre avait passé, on s'était dit, on va continuer d'en faire sauter. Comme ça, les gens vont pas se dire, ah, ben, c'est juste les Felkistes pendant un mois qui sont énervés. C'est les souverainistes pendant des années qui sont comme ça. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon fait très, très bien de se préoccuper de ces choses-là. Je suis convaincu qu'il est déjà espionné, je le dis.
Ah,
Convaincu.
ouais, tu penses? Parce que c'est ça que j'allais
Convaincu.
dire. Maintenant qu'on est dans un système, ben, je vois moins de violence au Québec là, qu'il y avait dans ces années-là là, avec le Front de libération du Québec. Tu penses que c'est encore fait quand même, cette forme d'espionnage-là envers le PQ? Parce que pour moi, c'est un débat démocratique, là, souveraineté, fédéralisme, c'est plus vraiment un débat où, justement, ça laisse place aux armes.
Oui, mais Paul Saint-Pierre Plamondon veut briser le Canada. Juste, vous compreniez bien, là, il veut faire un pays, mais avec un morceau qui appartient au territoire canadien. Donc, si vous êtes le Canada, c'est pas une question d'administration publique banale, là. C'est pas on met-tu 10 millions ou 15 millions dans la réfection du parc. C'est la souveraineté d'un pays supplémentaire sur le continent. Donc, autant je suis capable de vous dire que c'est tout à fait normal et même banal que le fédéral fasse ça, que je suis capable de vous dire également que c'est sûr qu'ils le font. C'est absolument certain qu'ils le font.
Moi, ce qui me fascine là-dedans, Rémi, Jeff, c'est que pour avoir un mandat d'écoute, là, il faut c'est très encadré par le code criminel,
En
là,
effet.
en partant. Faut que la police, généralement, mène une enquête criminelle sérieuse, prépare une dénonciation sous serment. On demande ça à un juge. Après ça, on reçoit une autorisation qui est limitée. C'est assez complexe à faire valoir pas à faire porter. Écoute, qu'on amène ça aujourd'hui dans l'actualité, c'est une chose. Est-ce que c'est le meilleur moment quand PSPP le fait? C'en est une autre, on pourrait débattre avec des analystes politiques. Moi, j'aurais plus pensé qu'à l'international, l'ingérence, là, on se serait un peu permis d'aller fouiller dans notre système politique puis la façon dont le PQ veut faire les choses pour voir comment ça va se débattre après dans les affaires économiques, mais aussi dans tout ce qui est sécurité, cyberattaque, même désinformation. On peut aller bien plus loin là-dedans. J'aurais plus pensé à ce genre d'ingérence-là que la GRC qui réussit à avoir un mandat sérieux pour avoir des mandats d'écoute.
Ouais, mais moi, je ne suis pas convaincu que à ce niveau-là, disons, de décision à la GRC, on ait vraiment besoin de passer par les règles normales, mandat. Tu sais, je pense il y a probablement une cellule. Et là, c'est là qu'on pourrait probablement prendre un clip de ce que je suis en train de vous dire puis me passer pour un niaiseux parce que je ne sais pas quelle forme ça prend. Mais j'ose croire qu'il y a des services secrets au Canada. Hein, le service de renseignement, c'est des services secrets. Ça, ce n'est pas tout à fait la GRC. C'est la SCRS, c'est une unité à part. Et j'ose croire qu'il y a des choses qui se passent là-dedans qui ne sont pas connues de centaines, voire de milliers de personnes. Ça
En
s'appelle
effet.
les services de renseignement secrets. Donc, je pense qu'il y a des affaires qui sont capables d'être faites sans que le commun des mortels soit tenu au courant.
Toi,
Et
tu
je
ramènes ça, par
m'appuie.
exemple, à l'ex-ministre Claude Morin, qui était à l'intérieur puis qui était informateur auprès de la Gendarmerie royale dans le temps?
Claude Morin, ça c'est un autre exemple. Claude Morin, ça a été prouvé, ça a duré des années. Puis, tu sais, vous regardez des films, par exemple, où ça se passe des affaires de même. Là, on amène quelqu'un dans une chambre de motel, puis là, on regarde, hop, hop, y a-tu quelqu'un qui nous a vu, on fait trois fois le tour du bâtiment. Mais Claude Morin, ça s'est passé de même. Il l'a raconté comment ça se passait. Ça se passait précisément comme ça, dans des chambres d'hôtel, il s'assoyait. On fait des films, des fois à partir du réel, des fois le réel, on s'y perd parce qu'on pense que c'est un film, mais dans le cas de la souveraineté du Québec, du traitement qui a été fait aux souverainistes, c'est prouvé, je le répète, c'est prouvé. Si ce n'était pas prouvé, ah ben là, en ce moment, je serais peut-être en train d'essayer de vous endormir, puis il faudrait peut-être que je prenne mes pilules. Mais c'est prouvé. Donc moi, je pars du réel, c'est moi qui pars du réel. Ce n'est pas ceux qui trouvent ça ridicule, c'est moi qui pars du réel.
Parlant de réel, on apprenait aujourd'hui dans un article de la presse que l'intelligence artificielle
Oui.
s'est infiltrée dans l'examen de français à la fin du parcours collégial, donc examen de français obligatoire. Et là, qu'il y aurait des jeunes dans des vêtements amples qui auraient caché des cellulaires. Il y aurait même des jeunes qui auraient utilisé des lunettes avec l'intelligence artificielle. Mais Rémi, je veux te parler de la réaction de la Fédération des Cégeps parce que moi, j'ai essayé d'avoir Marie Montpetit en entrevue. On m'a dit non. J'ai l'impression là, qu'on essaye le plus possible de balayer ça en dessous du tapis, là. On veut pas vraiment que cette information-là sorte. Est-ce que c'est moi qui fabule ou c'est ta vision des choses également?
Ben, moi, en fait, juste une petite précision, parce que je pense que c'est encore plus grave ce qui est en train de se passer que ce que tu viens de rapporter. Dans l'article de la presse sur le sujet, on soulève des hypothèses quant aux façons de tricher, mais on n'a pas de preuves. On n'a aucune preuve. Et la raison pour laquelle on n'a pas de preuves, c'est que les étudiants trichent tellement bien grâce à l'IA qu'on n'est pas capable de les pogner. Hein? C'est écrit avec des points d'exclamation dans l'article là. Est-ce qu'ils mettent des lunettes? Est-ce qu'ils ont des téléphones qui sont cachés? Si on savait qu'ils faisaient ça, on les pognerait.
En
Et on
effet.
pourrait dire, ah ben il n'y a plus personne maintenant, ces lunettes-là ne rentrent plus dans une classe. Ou maintenant, quand on passe un examen, on n'a plus un hoodie parce que ben, il y a des gens qui... Non, c'est pas ça. C'est que les professeurs se massent les tempes en essayant de comprendre comment c'est fait et ils sont bernés. Et moi, je peux vous dire une chose. J'ai été enseignant au secondaire à des jeunes de 12-13 ans et ils me bernaient à 12-13 ans, là, des jeunes.
Quand tu étais quand
Hein,
même
à qui je...
connecté, tu n'étais pas trop loin versus quelqu'un de 60 ans en montant, puis encore là, ça peut être une personne hyper connectée puis capable de voir qu'est-ce qui se passe, mais on se comprend, là.
Ben oui, puis je dirais même que je suis, on vient de le découvrir, un peu paranoïaque. Donc, à chaque fois que je recevais une copie, je portais une attention particulière et je me suis fait berner. Pas juste par un élève qui me dit, je peux-tu aller aux toilettes, puis qui est allé fouiller sur son téléphone. Là, ça, c'est vieux comme le monde. On parle de travaux qui sont remis. Déjà, je pense que le plus grand drame dans cette histoire-là, c'est qu'il va falloir accepter quelque chose qui fait mal. Le monde scolaire a changé. Et on ne peut plus l'approcher avec la même bonhomie et avec la même, j'oserais dire, naïveté qu'on le fait en ce moment. Tu peux même plus demander à un élève de faire un travail à la maison. Ça ne se fait plus, ça. Parce que tu sais qu'il va utiliser ChatGPT et Grok. Donc, tu peux plus le faire.
Hier, c'était ma chronique avec Maxime, notre collègue, OK, parce que j'avais vu dans un média français ce qui était sorti, puis il y a eu un sondage qui a été fait par Ipsos. Et les étudiants disaient à 54 % qu'ils avaient déjà triché aux examens avec l'intelligence artificielle dans cette nouvelle étude-là, 54 %. Pour eux, la conception des études, là, que nous, on a connue, là, les vieux dinosaures, là, pourtant, on n'est pas si vieux que ça, est complètement différente parce qu'on ne peut plus se fier à la mémorisation, un, qui nous permet ensuite d'analyser, puis d'appliquer nos savoirs là, dans un examen. Ça serait plus du tout, du tout, du tout. Les élèves demandent maintenant à 86 % que ce soit que la démarche intellectuelle qui soit analysée et non la réponse finale. 82 % sont favorables au contrôle continu sur l'ensemble de la formation. 78 % approuvent les examens à ressources autorisées. Ça veut dire donnez-moi les papiers parce que de toute manière, je vais tricher et ou je n'ai plus de capacité de mémorisation. Puis mon travail d'étudiant n'est plus celui que vous avez connu. Puis plusieurs demandent justement que ça soit carte sur table puis que l'intelligence artificielle fasse partie des études parce qu'ils se disent ben sur le marché du travail, je vais l'utiliser de toute manière. Alors, évaluez-moi pas en tant qu'individu qui a quelque chose emmagasiné dans son cerveau.
Ah oui, mais ça, vous voulez me déprimer, là? Même s'il fait le plus gros des soleils dans la vie, vous me dites ça, là, justement, que le monde
Salut!
après l'école a changé, donc on ne doit plus former les élèves à l'ancienne, parce qu'après, de toute façon, le monde qui les attend n'est plus à l'ancienne. Mais c'est parce que quand on réfléchit comme ça, puis c'est pas une mauvaise façon de réfléchir, soit dit en passant, je dirais même que c'est totalement logique, mais le problème, c'est qu'on prépare toujours pas des gens à faire leur travail s'ils n'ont plus les ressources, parce que ces ressources-là ne seront pas toujours disponibles. L'IA ne sera pas demain matin à 100% dans nos vies tout le temps. Je regrette, moi je l'utilise presque pas l'IA, là.
Puis pas juste ça, les capacités personnelles là, de réflexion, de remise en question, le système D qui se perd, le système de débrouillardise là, chez quelqu'un, là. Quand tu as à analyser l'information rapidement dans ton cerveau, là, ils disent que notre cerveau se ramollit juste en scrollant sur les réseaux sociaux. J'imagine pas avoir non exercé notre cerveau quand on demande à des personnes âgées de faire des sudokus pour être sûr de contrer l'Alzheimer puis essayer de faire travailler son cerveau. On peut pas dire c'est une bonne chose, là. Par la suite, c'est qui va être sur le marché du travail?
Mais non, mais on se rappelle là, le fameux article qui avait été publié l'été dernier dans lequel on apprenait que des jeunes au primaire n'étaient pas capables d'attacher leurs lacets, de dépeler une banane, de faire des gestes simples avec les mains parce qu'ils sont habitués d'être devant des écrans à longueur de journée. Mais avec des jeunes devant qui devant qui on renonce, devant qui finalement on baisse les armes en disant, écoutez, le monde qui vous attend sera un monde sans livres, surplombé d'écrans, où vous n'aurez même plus besoin de faire une recherche par vous-même, vous n'aurez qu'à poser une question à l'intelligence artificielle. Ben moi, c'est un monde qui me terrifie. Et moi, je fais des tests régulièrement avec ChatGPT pour lui demander, par exemple, de me proposer des invités pour mon podcast. Je vous l'ai déjà raconté ici. Et on me propose des morts. On me propose des gens qui sont décédés il y a 50 ans. Donc, je me dis, le jeune qui fait son
Mais
examen
non,
avec
mais Rémi,
ChatGPT.
le podcast de l'au-delà, voyons donc, ça pognerait au bout, ça.
C'est vrai, j'y ai pas pensé. Je te la laisse, cette idée-là, elle est tellement bonne.
Rémi Villemur, toujours un bonheur. On va avoir Pascal Paradis dans quelques instants, justement, à l'émission. On en jase, on se reparle jeudi, mon ami.
Bye-bye, ciao.
Salut. On passe en pause rapidement et par la suite, Pascal Paradis s'installe avec nous. On va jaser, entre autres, de transformation numérique. Restez là.